traite indique le principe, ce par quoi, qu'est-ce que c'est que la personnalité, c'est ce par quoi je suis une personne. Alors, la personne est concrète, implique beaucoup d'éléments. La personnalité montre l'émergence d'un de ces éléments. Autre chose est la personnalité d'un gendarme, parce qu'il y a une personnalité de gendarme. C'est pourquoi il est gendarme. Ce par quoi l'artiste est artiste. Je prends exprès deux pôles différents. Vous direz, la personnalité du gendarme, elle ne va pas très loin, elle dépend de sa fonction. Et elle n'engage pas beaucoup l'homme. Je parlais une fois longuement entre le grand chef gendarme au-dessus de tout qui est à Paris et qui choisit les gendarmes. C'est intéressant. Comment est concevé. Il m'avait pris en autostop. Une conversation avec lui sur ce qu'est le gendarme et comment il choisissait les gendarmes. Tous les gendarmes passaient par lui. La nomination de tous les gendarmes. Bon, on pourrait dire personnalité du religieux Saint-Jean. C'est toujours ce par quoi on est. Ce par quoi c'est le principe. On essaie de saisir ça, la personnalité. Donc la personne, c'est le concret. Il y a des personnalités différentes. La personnalité de l'épouse n'est pas la même que la personnalité de l'époux. La personnalité du peintre n'est pas la même que celle du fonctionnaire. Et ainsi de suite, oui. Parce que personnalité montre qu'on met en lumière un aspect de la personne. Devant la complexité de la personne qui est traitée est un ensemble, un équilibre. Cet équilibre est différent chez le père de famille, chez l'artiste, chez le diplomate, et ainsi de suite. Et je distingue tout de suite par les personnalités qui s'enracinent très profondément dans le point de vue de la connaissance ou des personnalités qui sont très dépendante du point de vue physique. Pour les gendarmes, la question de la taille revient toujours. Il faut que le gendarme soit pas trop petit. S'il est tout petit, il serait refusé comme gendarme. S'il est trop grand, il serait refusé comme gendarme. Tandis que la personnalité de l'artiste, ça n'a aucune importance, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Mais c'est très curieux, c'est ça. Toute la gamme des personnalités Évidemment, c'est moins philosophique que qu'est-ce que c'est que la personne. La personnalité jaillit de cette diversité des personnes. La personnalité Saint-Jean. Est-ce qu'il y a une personnalité Saint-Jean? Est-ce que ça existe, une personnalité Saint-Jean? Oh, la personne. La personnalité Saint-Jean doit être et doit provenir de la sainteté. On est parfaitement Saint-Jean si on est saint. Et c'est Saint-Jean. Si vous êtes une originalité telle que la sainteté est très loin et que c'est votre originalité qui domine, vous n'êtes pas fait pour Saint-Jean. Vous êtes fait pour être un clown. Alors, pouvez-vous être le clown de Saint-Jean?
Mon père, on voulait que vous nous aidiez aussi à réfléchir par rapport à la question de la mémoire, dont on a plusieurs questions à vous poser à ce sujet.
Je comprends.
La mémoire du corps, enfin, c'est de cela qu'on parlera peut-être plus précisément en premier lieu. La mémoire du corps est souvent définie comme ce qui demeure lorsque l'homme a tout oublié. Autrement dit...
Parce que l'homme a tout oublié, oui.
Autrement dit, il n'y a pas de lien nécessaire entre la mémoire du corps et la lucidité personnelle. Qu'est-ce que la mémoire? Est-ce un sens interne? Quel est son rapport avec l'intelligence et la volonté?
On parle de la mémoire à cause du corps. Il faut mettre ça tout de suite. Bien, je tombe dans la mémoire augustinienne, qui est une mémoire intellectuelle, et la mémoire augustinienne intellectuelle, c'est une des fonctions de l'intelligence. Elle n'est pas spéciale. Si je parle mémoire au sens précis, c'est toujours lié au corps. C'est lié au corps. Selon mes diverses activités. Alors, il y a une mémoire de mes activités. Il y a une mémoire de mes passivités. Donc, il y a déjà là une très grosse différence entre deux types de mémoire. La mémoire de passivité, c'est qu'il peut aller très loin. Dès la conception que l'enfant portait dans le sein de sa mère, il a une mémoire de ce qui s'est passé. Alors, là, il faudrait se poser la question. Est-ce que la mémoire implique toujours l'âme? Première question, c'est ça. Est-ce que la mémoire implique toujours l'âme? Est-ce que la mémoire humaine, je dis bien la mémoire humaine, à la différence de la mémoire de la vache, est-ce que la mémoire humaine implique toujours le point de vue de l'âme? Alors, l'enfant dans le sein de sa mère, quand l'âme a été créée, on ne sait pas. On ne sait pas le moment exact. Vous savez, des variations de position multiples. Et c'est curieux que ces variations de position sont très en fonction du péché. S'il n'y a pas d'âme, il ne peut pas y avoir de péché. Est-ce que le chien a une mémoire? Il a une mémoire de chien. La mémoire du chien relève de son instinct. Mais est-ce qu'il y a une mémoire du corps du chien? Toute jeune, on a été très dur pour elle. Alors, est-ce que ça se retrouvera toujours quand le chien grandira et deviendra farouche? Et quand on a un chien de race, tout petit, on peut en faire ce qu'on veut. Et quand il pousse, il devient très déterminé et très difficile à faire dépasser ses instincts. Si c'est un chien de race, ses instincts sont extrêmement forts et l'éducation qu'on essaie de donner aux chiens n'arrive pas à dépasser ça. Je connais ces gens qui sont des éducateurs de chiens, ils disent tout ça. C'est que quand il y a un chien de race, sa race va dominer. On a des chiens comme ça, de race très, très méchantes. Et il arrive à un certain âge, un an, parce qu'un an pour un chien, c'est beaucoup. Ça correspond à 10 ans, j'ai un petit garçon, au moins 7 ans. L'instinct est plus fort. Et c'est au fond ça qui est très important, de voir que chez l'homme, on ne dira jamais ça. À cause de l'âme. L'âme n'implique pas cette dépendance raciale qui, pour l'animal, le chien, parce que c'est l'animal qui est particulièrement éducable, il dirait cheval aussi, mais c'est plus visible chez le chien. Et c'est peut-être l'animal où le point de vue de la race joue le plus. Et on n'arrive pas à dépasser. Ce qui fait qu'au fond, la mémoire, c'est sa nature. Sa nature de chien, telle, réapparaît avec force. Et c'est pas la mémoire. Il sera éduqué n'importe comment, ça reparaîtra. Chez l'homme, non. Et là, je crois que c'est ça qui est très important. C'est que l'homme est l'animal le plus éducable. Je me souviens, c'est le prisonnier du temps de guerre. Et ce prisonnier que je connaissais bien parlait de tout ce qu'il avait subi. Il dit, n'importe quel animal aurait crevé. L'homme ne crève pas. Il peut aller très loin dans le fait d'encaisser contre ce qu'il est, contre sa nature. Autrement dit, c'est toujours la même chose, l'homme est l'animal le plus éducable. Ça, je crois, c'est pas un principe, hein. C'est une constatation. C'est pour l'homme que l'éducation est le plus important. Dieu, c'est pour l'animal, c'est le dressage, plus que l'éducation. C'est plutôt dresser l'animal. L'homme, on éduque vraiment l'homme, et l'éducation arrive à transformer sa race. Parce que je crois que l'homme est l'animal le plus éducable. Alors, c'est sûrement par l'éducation et voir ce qu'est l'éducation qu'on saisit le mieux la mémoire. Par le point de vue positif. La mémoire est l'élément passif de l'éducation. C'est pour ça que j'ai rappelé ça dès le début. C'est qu'il peut y avoir chez l'homme une mémoire qu'on ne retrouve absolument pas chez l'animal. Quoique les chiens ont une mémoire très forte quand ils sont attachés à leur maître. Le maître peut partir des années, et quand le maître revient, tout de suite le chien. La vache, pas du tout. Je sais pas si elle a des maîtres. Tandis que le chien, le cheval aussi. Ce sont des animaux qui sont plus éducables. Alors, c'est très curieux. Mais le point de vue éducable et le point de vue positif de la mémoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Intellect actif, intellect passif. Intellect actif et passif, ça a été projeté sur l'intelligence qu'il y a dans l'intelligence une puissance de réceptivité qui est plus profonde, plus radicale que la puissance inventive. Donc, le point de vue spirituel de l'homme fait qu'il y a chez lui une mémoire qui est très radical. Alors, cette mémoire très radicale va nous faire comprendre la mémoire du corps. Au fond, la mémoire du corps, c'est quand, justement, la mémoire des événements, on a oublié, mais le corps elle n'a pas oublié. C'est le côté passif de l'intelligence, le côté passif de l'esprit. La passivité de l'esprit est très radicale et plus profonde que son activité. Ça, je crois qu'on peut humainement le montrer. Ça a beaucoup de conséquences au point de vue moral. ça fait que ce qui est le plus difficile, c'est de pardonner. Parce que la mémoire encaisse des tas de choses. Et pardonner, c'est justement dépasser ce point de vue de la mémoire qui se rappelle absolument des événements. Et on se rappelle là d'une passivité qu'on a subie comme esclave. La passivité d'esclave. C'est pourquoi l'homme l'esclave. On dira pas ça que je suis l'animal. Parce qu'il y a une passivité qui peut aller très loin. Et cette passivité très loin marque l'éducation première. C'est ce qu'il y a de plus profond. Mais vous voyez, ce n'est pas la mémoire du corps, c'est la mémoire de l'âme dans le corps. Et c'est cette passivité du corps, passivité de la matière qui est plus profonde que mon activité. Intellect actif, intellect possible. Et l'intellect possible dépasse l'intellect actif. Il y a des passivités qui sont plus radicales et qui sont premières, l'intellect passif. Et je crois que c'est ça, c'est par cet intellect passif qu'on peut découvrir ce qu'on appelle la mémoire du corps. Parce que le corps n'a pas de mémoire. Le corps comme corps, mais le corps vivant a une mémoire. C'est le corps vivant qui a une mémoire. Le corps humain. Le corps humain a une mémoire. Et cette mémoire provient de l'âme et pas du corps. C'est l'âme dans le corps qui fait que le corps participe à cette capacité de réceptivité, d'encaisser, qui est plus forte que l'aspect actif, qui est plus enraciné en nous. Et plus cela dépend, je dirais, de la formation de notre corps, plus c'est enraciné en nous, plus on a l'impression que c'est le corps qui garde cette espèce de passivité mauvaise, une passivité qui demeure, une passivité qu'on n'a pas dominée. Une passivité non dominée peut renaître 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Parce que il y a une passivité du corps qui n'a pas de limite. Autrement, il y a des réserves passives en nous qui remontent à notre première éducation. À notre première éducation. On a eu des parents qui étaient très durs. On a eu quelqu'un qui était près de nous dans notre première éducation, qui ne comprenait rien aux appels au désir et qui nous ont fonché dedans. Alors, on n'a rien dit et on ne pouvait pas le dire parce qu'on était matraqués. Donc, on a pris comme tactique de se taire pour recevoir moins de coups. Mais on s'est tu jusqu'au moment où ça a pu ressortir. Et, autrement dit, il y a une passivité en nous à cause de notre corps qui reste une passivité obscure, potentielle, tout à fait potentielle, tout à fait obscure, mais une passivité qui vient de notre âme. Donc, ce n'est pas le corps qui est la mémoire, c'est l'âme dans le corps, oui. Mon âme encaisse. S'il n'y avait pas d'âme, il n'y aurait pas de mémoire. Mais il y a une âme. À quel moment? Là, on peut voir tout simplement. Dès qu'il y a âme, il y a mémoire. Et si c'est arrivé tout à fait au début, quand nous pouvions encore à peine, nous pouvions seulement par des cris ou par des pleurs manifester notre crainte. Vous voyez, quand vous laissez un enfant pleurer indéfiniment, crier indéfiniment, ça fait partie de certaines méthodes éducatives. Il faut laisser l'enfant crier. Venir le soutenir trop vite. Mais ces cris qui n'ont pas été entendus, donc qui n'ont pas été reçus, demeurent des cris. Et alors, c'est cette mémoire. Mémoire des non-secours, vous voyez, vous pouvez dire ça, des non-miséricordes. On se rappelle parce que personne n'a été là. Et on a vécu seul, en criant, en pleurant, en appelant. Et il n'y a pas personne qui a répondu. Ça reste dans la vie. Et alors, on va l'appeler la mémoire du corps. Mais c'est pas du tout la mémoire du corps, c'est la mémoire d'un corps animé. Et parce qu'il y a une âme, il y a une mémoire. Et une mémoire tout à fait première de passivité non écoutée. Toutes les passivités rejetées, non écoutées, demeurent dans l'immanence de l'âme. Et c'est cette immanence de l'âme dans le corps qui surgit certaines circonstances particulières ou qu'on fait surgir par une méthode psychologique, alors d'essayer de faire surgir des choses très anciennes qui ne sont pas surgies, qui ne sont pas sorties et qui alors jouent comme des empêchements. Arrête, qui empêche et qui demeure des portes fermées. trois saints qui peut expliquer le fait de revenir sur des événements passés pour essayer de faire que ça va de nouveau se dire, surgir. Et dans la mesure où on arrive à permettre de le dire, on a libéré. On a libéré l'individu de ses poids trop lourds à porter. Et ça, on voit ça énormément. J'ai des gosses qui n'ont pas eu beaucoup de bonheur quand ils étaient jeunes. Ils ont été adoptés et mal adoptés, parce que ça existe. Il y a des gens qui vivent grâce à l'adoption, parce qu'on est payé. Vous paie. Alors quand on ne veut pas travailler et qu'on veut gagner, on gagne en ayant plusieurs enfants qu'on adopte et on reçoit leur pension. Alors on reçoit leur pension et on les éduque d'une façon difficile, dure. Alors chez ces enfants-là, on voit bien comment des tas d'arrêts ne sont pas sortis. Et les faire sortir libère. Et je crois qu'on touche là à cette espèce de chose extrêmement profonde. Potentialité dans le corps qui relève de la matière est plus profonde que l'actuation de l'âme. Puisque le corps est antérieur. Le corps a une potentialité radicale, substantielle. Potentialité substantielle, donc qui demeure tout le temps. Même chez quelqu'un qui a été très bien éduqué, très bien élevé, avec beaucoup d'amour, la potentialité est plus forte que l'actuation. Donc nous sommes tous un réservoir de. On garde. Par son corps, la mémoire des déficiences fatales de l'éducation. Il y a des déficiences fatales de l'éducation. Personne d'entre nous ne peut prétendre avoir eu dans sa jeunesse une éducation idéale qui actuait toutes nos potentialités. On a une potentialité plus profonde qui vient de la matière par notre corps et qui est radicale, substantielle. Donc, on ne peut pas accuser nos parents, nos éducateurs, on ne peut pas les accuser de ne pas avoir vu ces potentialités. Parce que pour avoir vu ces potentialités sont restées à l'état potentiel, comme des appels, comme des appels. Or, c'est très difficile d'arriver à discerner chez le petit gosse l'appel sérieux, vraiment pour actuer la potentialité, est le caprice. Il y a le péché. Le péché augmente la potentialité. S'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas c'est ça. Mais à cause du péché, cela existe. Et c'est peut-être ça qui est le plus terrible dans le péché. C'est que ça actue la potentialité de notre corps. Ça fait que la potentialité de notre corps est plus grande que l'actuel, que ce que notre éducation nous donne comme acte. Autrement dit, dans toute éducation, il y a un retard. Il y a un retard qu'on n'a pas encore entièrement actué. Et on porte en soi ce retard, qui fait que dans la vie plus tard, quand on est devenu un homme, quand on dirige sa propre vie, mais que soudainement ça rate, tout ce qui, dans le passé, n'a pas été actué, ressort. Et, au fond, les gémissements appellent les gémissements. Et la mauvaise humeur appelle la mauvaise humeur. Et c'est très curieux, ça. Quand on a dépassé et qu'on a quelque chose de positif à rechercher, on ne tient pas compte du passé. Mais il ne faut jamais oublier dans l'Écriture que quand on sort pour quitter l'incendie et qu'on regarde par derrière, on est changé en statut de sel. Et qu'est-ce que ça représente, cette statut de sel, symboliquement? Est-ce que ça ne représente pas le poids du péché? Le poids de tous nos désirs qui n'ont pas été actués? Le poids de tous les désirs qui n'ont pas été actués est terrible.
Père, vous soulignez l'exemple d'un enfant qui est par exemple adopté et qui reçoit une éducation qui n'est pas bienveillante. On pourrait se poser la question, mais quel lien y a-t-il entre l'identité de la personne et la mémoire? Est-ce que la mémoire humaine contribue à la croissance et à la formation de la personne humaine?
C'est sûr. C'est sûr. Je suis un être qui devient. Et du fait même que je suis un être qui devient, et je deviens dans ma propre formation personnelle, par le fait même que je suis vulnérable. Et je suis un être fragile. Parce que je deviens.
Mais comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser la mémoire lorsqu'on la regarde comme un traumatisme?
On ne peut jamais la dépasser totalement. Il faut accepter que nous avons tous un retard dans le passé. Nous n'avons pas été parfaitement intelligents. Nous avons aimer telle ou telle chose, telle ou telle bêtise. Nous avons aimé le miel et on a tout fait pour avoir du miel. On a aimé la confiture et on a fait tous des bêtises. On a tous fait des bêtises. On est chargé de bêtises. Hein. Et c'est pour ça que vous dites, ne la regardez pas trop. Parce que si vous le regardez trop, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet individu? Alors, le point de vue chrétien me montre la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu joue là. Je suis enveloppé de la miséricorde de Dieu. Parce que tous ces retards qui n'ont pas été faits, toutes ces choses qui sont restées, Dieu les reprend par la miséricorde. Mais pour quelqu'un qui ne croit pas, mais il y a une panique terrible. J'ai perdu du temps, j'aurais pu faire autre chose. J'ai perdu. Mais je me suis éveillé à ma vie, de croyant à tel âge. Avant, je ne sais pas. En sachant très bien que je pouvais faire autre chose, j'ai perdu du temps. Alors, la miséricorde de Dieu rattrape tout. Alors évidemment, avec la miséricorde de Dieu, supprime la mémoire du corps. Je vois un actu fait que cette mémoire du corps est dépassé par le point de vue de la miséricorde. Et ça, je crois que pour des jeunes, aujourd'hui, qui seraient facilement dans le désespoir, la miséricorde est capitale. C'est pas pour rien qu'il y a un dimanche de la miséricorde de Dieu. C'est que l'humanité a terriblement besoin de la miséricorde de Dieu pour ne pas tomber dans le suicide, dans l'impossibilité de vivre.
Père, lorsque vous dites que la miséricorde de Dieu actue la mémoire du corps, est-ce que c'est au sens où cette miséricorde nous remet dans le chemin d'espérance?
Oui, justement. La miséricorde est faite pour l'espérance. Et l'espérance présuppose la miséricorde. Par moi-même, je ne peux pas me rattraper. Par moi-même, je sais, j'ai perdu du temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Tout en ayant essayé de faire les choses pas trop mal, mais j'ai perdu du temps. Du temps, vous voyez, le temps est une chose terrible parce que le temps est lourd de toutes mes fragilités. Et je crois que ce sera le propre des corps glorifiés, c'est d'être plus dans le temps.
Mon père, il y a une petite question puisqu'on parle du temps. La mémoire me permet-elle d'unifier la discontinuité du temps? La mémoire au service de l'esprit ne permet-elle pas la connexion d'un instant par rapport à un autre?
Oui, d'une certaine manière, on peut dire ça, que le temps existe grâce à l'instant présent. Donc le temps n'existe pas en soi. C'est moi qui fais ressusciter ce temps par l'instant présent. L'instant présent qui m'est donné et qui est pour moi le seul moment où je suis vivant. Je vis dans mon instant présent. Je ne vis pas dans le passé, je ne vis pas dans le futur. Le futur, c'est le futur, ce n'est pas l'acte d'existence. Le passé, c'est le passé. Je n'ai comme vie que l'acte par où je touche l'éternité, l'instant présent. Alors, je peux rattraper le passé, je peux offrir le futur. Et ça, c'est la mémoire. Je peux rattraper le passé, un acte de contrition. L'examen de conscience, c'est pour me soulager du passé. Ce passé qui est lourd à porter. Alors, il est offert à Dieu, c'est-à-dire, on appelle dessus la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est pour le passé. Dieu étant éternel, le passé pour lui est présent. Tandis que pour moi, le passé, je ne peux pas le rattraper. Mais grâce à la miséricorde, je rattrape le passé. Et c'est la miséricorde qui regarde le passé. Et Dieu seul peut faire que ce passé soit positif. Et soit dépassé. On pourrait dire la miséricorde, c'est réactuer le passé. La miséricorde de Dieu réactue le passé. Le passé qui est passé et qui n'est pas, par la miséricorde de Dieu, il est. Je peux redonner vie à mon passé. Chose extraordinaire. Je peux redonner vie à mon passé en l'offrant à Dieu. Il y a eu telle bêtise dans le passé où j'ai perdu du temps. J'ai fait comme le jeune homme, elle est comme le petit Benjamin. Il a tout dépensé. Il avait une très grande richesse, il a tout dépensé. Et le pardon du Père a fait que tout le passé est purifié. Ce que le Fils est furieux. Hein. L'aîné, la parabole des deux espagnols est très belle. Parce qu'on voit que le Père, pour le Père, le passé n'a de sens que par son Fils qui est là présent. Il est relatif à ça. Donc le passé est relatif à ça. Tandis que pour le frère aîné, le passé, c'est le passé. Il a tout dépensé. Et ces deux regards du passé, celui du frère aîné, celui du père, nous montrent comment la miséricorde peut transformer le passé et lui redonner vie. La miséricorde ressuscite tout le temps. Et fait que le passé revit et est pardonné. Tandis que s'il n'y a pas de miséricorde, le passé est un absolu. Vous êtes conduit comme un pauvre type dans le passé, ben oui. On ne peut pas changer. D'où le désespoir. Parce que je ne peux pas changer le passé, moi. Mais avec la miséricorde de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a l'appel à la miséricorde. C'est parce que nous sommes une civilisation qui vit du passé. Une vieille civilisation qui vit du passé. Et nous vivons du passé avec un passé qui est lourd. Alors, Dieu seul est le maître du passé. et fait que le passé, par Dieu, peut être effacé. Dans le pardon, je peux faire que le passé, dans le regard de Dieu, est mis en face de Dieu pour que Dieu pardonne. Dieu est le Dieu du présent, mais un présent qui réactue le passé. Vous voyez ce que c'est la mémoire du corps. La mémoire du corps explique quelque chose de métaphysiquement très intéressant, très curieux. C'est que la causalité matérielle, la matière, est antérieure à la causalité formelle et finale. Et quand je suis en pleine vie, la finalité est suffisamment forte pour que je ne m'occupe pas du passé. Et quand je suis très fatigué, je suis dans le passé. La finalité ne joue plus assez. Et c'est, je crois, cela qui est tout à fait propre à notre temps. C'est que la finalité n'est plus assez forte pour l'humanité. Et l'humanité vit de son passé. Alors, par le fait même qu'elle vit de son passé, elle est dans la misère. Elle n'arrive plus à survivre. Alors, c'est dit d'une façon très simple dans l'Écriture. Si tu regardes en arrière,